Bismillah.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، donc nous entamons inshallah le deuxième cours concernant l'entrée du mois de Ramadan, sa vertu et certaines des adorations qui y sont légiférées par le Cheikh, le Mufti, l'Allama, Abdullah, Abdelaziz, Ibn Abdillah, al-Sheikh, Hafidhahullah Ta'ala. Donc il dit, « Thumma inna a'zama al-ibadat fi hadha al-shahri al-karim » هي عبادة الصيام. Puis la plus grande des adorations demandées pendant ce noble mois, c'est l'adoration du jeûne. وصيام رمضان رابع أركان الإسلام. Et le jeûne du mois de Ramadan est le quatrième pilier de l'islam. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما واللفظ لمسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: l'islam est bâti sur cinq, c'est-à-dire cinq fondements de base, cinq piliers. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a que ces piliers dans l'islam, qu'il n'y a que ces ordres dans l'islam. Non, il y en a plein d'autres, mais ce sont les plus importants. Et ce sont ceux dont il est le plus simple, si on peut dire, ou le plus facile à accomplir pour tous les musulmans. Donc l'islam est bâti sur ces cinq piliers qui sont l'attestation, la profession de foi de l'unicité d'Allah et celle du messager, du message de Mohammed alayhi salatu wassalam, que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Ça, c'est la clé de l'islam, la base même de l'islam. Aucune œuvre n'est acceptée s'il n'y a pas ce premier pilier. Toutes les œuvres de l'islam sont basées sur ce pilier. L'acceptation et le rejet des œuvres dépend de ce pilier. S'il n'y a pas ce pilier, les œuvres ne sont pas acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Aucune œuvre, ni la prière, ni le jeûne, ni le pèlerinage, ni la zakat, n'importe quelle œuvre qui existe dans l'islam, elle ne peut être acceptée et agréée d'Allah tabaraka wa ta'ala et ne peut être considérée comme bonne œuvre, amalun salih, si ce n'est lorsqu'il y a la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont de pair. Donc que les œuvres doivent être accomplies sincèrement, rendues exclusivement, réservées spécialement à Allah tabaraka wa ta'ala qui n'a pas d'associé. Et voilà la mise en pratique de la ilaha illallah. La ilaha illallah. Il y a une négation et il y a une affirmation. La négation, c'est le rejet total de toute forme de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'une divinité? C'est tout ce qui est adoré. Celui ou ce à quoi on voue un culte, il devient par là une divinité. Mais toute divinité est fausse et l'adoration qui lui est donnée est vaine, sauf la véritable divinité qui est Allah tabaraka wa ta'ala, qui est en droit d'être adoré, le seul. Donc la parole « al-ilah » qu'on traduit par « la divinité » veut dire « al-ma'lou » celui qui est adoré. Comme lorsqu'on dit en arabe « al-kitab » c'est sur la même échelle « al-ilah »« al-kitab » le livre. Et le livre n'est considéré ou n'est appelé livre que lorsqu'il y a de l'écriture dedans. Et c'est ce qu'on appelle al-maktoub. Donc c'est al-ma'lou dans le sens de al-ma'boud, celui qui est adoré. Donc c'est pour cela que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala, on les appelle al-aliha, les divinités. Mais elles sont toutes fausses. Elles sont divinités du fait que des gens, des créatures, leur vouent des cultes, les adorent. Mais ce sont des adorés qui sont faux, des divinités qui sont fausses. La véritable divinité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul. Puisqu'on reconnaît que c'est lui seul qui crée, c'est lui seul qui pourvoit, c'est lui seul qui donne la vie, c'est lui seul qui donne la mort, c'est lui seul qui décide de toutes choses, c'est lui seul qui gère sa création. Donc, en découle que c'est lui seul qui est en droit d'être adoré, dont on doit lui rendre un culte exclusif et sincère. Subhanahu wa ta'ala. Dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyu al-kabir. Ceci parce qu'Allah est la vérité, la véritable divinité, et tout ce qui est invoqué, adoré en dehors de lui n'est que le faux. Et Allah, il est l'élevé et il est le grand, subhanahu wa ta'ala. Ala lillahi d-din al-khalis, n'est-ce pas qu'à Allah appartient la religion de sincérité? Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisin lahu d-din. Et ne leur a été ordonné que d'adorer Allah sincèrement. À lui appartient la religion. فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. Adore donc Allah sincèrement en lui vouant un culte exclusif. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, que l'œuvre, pour qu'elle soit acceptée, agréée, qu'elle soit en conformité selon le suivi des ordres et des enseignements du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Car l'adoration ne s'invente pas. On n'invente pas l'adoration. Allah veut qu'on l'adore seul sans rien lui associer, mais on ne l'adore pas comme nous, nous le voulons, mais comme lui nous l'ordonne, subhanahu wa ta'ala, et il nous a ordonné de suivre les préceptes de son prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, de suivre les enseignements, la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, puisqu'Allah nous l'ordonne dans le Coran. Mais yuta'ir rasoul faqad ata'a Allah. Celui qui obéit au messager ne fait qu'obéir à Allah. Wa ati'u Allah wa ati'u rasoul. Et obéissez à Allah et obéissez au messager. Wa ma ata'kum ar-rasoul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa ttaqu Allah inna Allah shadidul 'iqab. Et ce que le messager vous ordonne, accomplissez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah. Car Allah est douloureux dans son châtiment, et bien d'autres versets qui vont dans ce sens. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait un acte qui ne fait pas partie de notre ordre, de notre enseignement, est à rejeter. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui invente une chose dans notre religion alors que cela n'en fait pas partie, cela est à rejeter. Donc, toutes les œuvres, elles dépendront de cette attestation de foi pour qu'elles soient acceptées et agréées. Donc, toute œuvre que tu vas entreprendre, des paroles, des actes par lesquels tu veux te rapprocher de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, tu te dois de vérifier est-ce que cette œuvre, elle est faite sincèrement, rendu exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, et est-ce qu'elle est enseignée par le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Et ce qui nous est demandé, c'est de suivre et non pas d'innover. La religion, elle est complète. Il n'y a pas besoin ni d'enlever ni de rajouter. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, nous résume cela en nous disant que les œuvres des créatures, elles sont de quatre sortes seulement. Trois sont rejetées et ne sont pas acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et une seule est acceptée et elle est agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait un acte sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, sans rien lui associer. Et que cet acte est en conformité avec la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cette œuvre, elle est acceptée, elle est agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui agit ainsi est la meilleure des personnes dans ce monde. Une œuvre, la deuxième, qui n'est pas rendue exclusive à Allah. Elle n'est pas accomplie sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle est en contradiction avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette œuvre est rejetée, elle n'est pas acceptée. Et la personne qui agit ainsi est la plus mauvaise des créatures. Troisième œuvre, une œuvre qui est faite sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais elle est en contradiction avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette œuvre, elle est aussi rejetée et elle n'est pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Même si la personne, elle dit, mais je le fais pour Allah, oui, mais c'est contraire à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on ne se rapproche pas d'Allah avec les innovations et avec les inventions dans le domaine du culte. Celui qui croit qu'il se rapproche d'Allah ainsi, en réalité, le shaitan l'a trompé. Et il ne fait que s'éloigner d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le quatrième, c'est celui qui fait un acte pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et cet acte, il est en conformité avec la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam. Cet acte, il est reconnu, il est légiféré, mais la personne ne l'a pas fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cet acte, il est rejeté et il n'est pas agréé par Allah subhanahu wa ta'ala, n'est agréé que l'acte qui est fait sincèrement et en conformité avec la tradition du prophète, alayhi salatu wa salam. Et de s'acquitter ou d'accomplir la prière. L'ulama nous explique que iqamatu salah, c'est pas comme de dire à quelqu'un salli ou aqimis salah, ce n'est pas la même chose. Fais la prière. Et le terme iqama veut dire la prière qui est accomplie selon ses conditions et ses obligations. Comme l'a prié le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette prière-là qu'on appelle iqamatu salah. Sinon, combien de gens prient, mais n'ont pas véritablement fait iqamatu salah? Ils n'ont pas fait la prière convenable dans lesquelles se trouvent ses conditions et ses obligations. Et c'est pour cela que certains, on les voit prier, mais leur prière, elle ne les éloigne pas de la turpitude et des péchés. Alors que la prière, comme Allah nous le dit, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Certes, la prière, elle interdit la turpitude et le mal, le péché. Mais celui qui vivra vraiment cela, c'est celui qui accomplit la prière convenable. Celui qui vit avec sa prière. Mais combien de gens font la prière? Mais ce n'est pas cette prière-là qui va les éloigner de la turpitude et du péché. Parce qu'ils ne vivent pas avec la prière. Combien ils ne font que des gestes visuels. Et intérieurement, ils ne vivent pas avec la prière. Leur intérieur est autre part. Alors que celui qui accomplit convenablement la prière, il en gagnera ses fruits. Et la donation de s'acquitter de la zakat, qui est une aumône légale, c'est-à-dire obligatoire, à la différence des aumônes qui sont surérogatoire et qui est demandée une fois dans l'année. Elle concerne certaines richesses et certains biens qui sont la matière de l'or et de l'argent ou ce qui prend leur place comme les monnaies courantes, qui concerne les récoltes dans le domaine agricole, qui concerne le bétail, ceux qui ont des chameaux, des dromadaires, mâles et femelles, ceux qui ont des bœufs, des vaches, des taureaux, ceux qui ont des moutons, des brebis ou des chèvres, ces familles d'animaux qui sont concernées par la zakat selon certaines règles bien précises. Et aussi ceux qui sont dans le commerce pour la marchandise qu'ils ont. Selon certaines règles, il y a une zakat à s'acquitter lorsqu'on a, pour les premiers, atteint un certain seuil. Et le jeûne du mois de Ramadan, donc c'est le sujet même de notre cours, est le pèlerinage vers la maison, c'est-à-dire vers la maison sacrée qui est la Kaaba, qui est dans la mosquée sacrée et qui se trouve dans la ville de la Mecque Et c'est le premier lieu de culte mis sur terre pour les hommes. Depuis l'époque de Adam, alayhi salam. Puis la Kaaba fut détruite pendant le déluge. At-Tufan, à l'époque de Nuh, alayhi salam. Mais il restait la base même de l'édifice. Et Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à son prophète Ibrahim, alayhi salam, avec son fils Ismaïl, alayhi salam, de reconstruire sur les bases de la Kaaba qui fut donc construite et les gens se tournèrent vers elle. Et c'est le premier lieu de culte mis sur terre. Et c'est le seul endroit où on y accomplit le pèlerinage. Donc il n'y a pas de pèlerinage à Lourdes. Là, ils vont dire, mais nous, on n'en est pas concernés. J'ai fait exprès de citer Lourdes. Parce que chez les musulmans, wal'iyadhu billah, combien ont des endroits de pèlerinage? Les chiites ont des endroits en Irak, en Iran, dans lesquels ils font le pèlerinage. Et les autres, dont certains croient qu'ils sont dans la sunna, parce que le terme sunna, souvent, il est employé pour dire autre que le chiite. Mais il n'y a pas que les chiites comme secte. Il y a beaucoup, beaucoup de sectes dans l'islam. Et le véritable sunnite, c'est celui qui est en conformité avec la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam. Sur le même chemin qu'étaient dessus les compagnons, radiyallahu anhum, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Combien vont faire le pèlerinage vers des mausolées, que ce soit en Égypte, en Turquie, en Syrie, au Maghreb, en Afrique noire, et ainsi de suite. Des villes qui sont devenues des sanctuaires. Ils en ont fait des villes saintes, invention de leur part, jamais rendues saintes par le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et ils y accomplissent le pèlerinage selon des rites qu'ils ont inventés. Jamais Allah n'a demandé cela, subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadhu billah. Ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après le hadith de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, et cette version même est la version de l'imam Muslim. Wa huwa fardun, ya'ni as-sawm. بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. Et c'est une obligation, le jeûne du mois de Ramadan. Et on retrouve cette preuve dans le livre, dans la sunna et dans le consensus, l'unanimité des savants de l'islam. أما الكتاب فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Allah nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit, vous a été ordonné comme il fut ordonné à ceux d'avant vous. Même ceux d'avant vous, parmi les juifs et les chrétiens, Allah il leur avait ordonné le jeûne. Cette adoration qui est le jeûne, ce n'est pas une chose nouvelle chez nous. Mais elle a bien existé, elle a bien été ordonnée auparavant, afin que vous soyez pieux. Wa min as-sunna hadith ibn Umar as-sabiq. Et dans la sunna, on a le hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, le précédent qu'on a vu. Wa qad ajma'a al-muslimun 'ala fardiyyati siyam Ramadan. Et les musulmans ont été unanimes sur le côté obligatoire du jeûne du mois de Ramadan. Wa ma'na as-sawm fi al-lugha mutlaq al-imsak. Et le sens linguistique littéral du terme as-sawm, on dit as-sawm et on dit as-siyam, c'est le même terme et c'est la même racine. Donc le sens de ce terme veut dire mutlaq al-imsak, c'est l'abstinence. Le fait de se retenir complètement. Yaqulullah, pas seulement de manger et de boire. Ça peut être employé pour d'autres choses. Ça, c'est le terme arabe et qui a été pris pour le jeûne puisqu'on s'abstient de certaines choses. Et à la base, as-siyam, c'est l'abstinence. Yaqulullahu ta'ala an Maryam ummi Isa alayhi salam, Allah, élevé soit-il, nous dit en nous parlant de Marie, la Sainte Vierge, Maryam alayhi salam, la maman de Isa, du prophète Jésus alayhi salam. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Dis, Allah et lui, dis ô Mariam, j'ai voué un jeûne à mon Seigneur, au tout miséricordieux, donc je ne parlerai à aucun humain aujourd'hui. Donc son jeûne qu'elle a voué, c'était quoi? C'était de s'abstenir de parler aux gens. De s'abstenir de parler aux gens. Et c'est le terme saum qui a été employé pour cela. Faquli, inni nadhartu lirrahmani sauma, falan ukallima al-yawma insiya. Puis le cheikh cite aussi vers de poésie qui va dans ce sens. Je ne suis pas très poète et parfois la poésie est difficile à comprendre, même à que dire de la traduction. Wahuwa fi shara est dans le sens religieux. C'est un point essentiel. Les termes religieux qu'on a dans l'islam, ce sont des termes arabes. Et parfois, le sens qui est voulu religieusement n'est pas le même que le sens littéral. Et c'est important d'en faire la distinction, de connaître le terme en arabe à la base, ce qu'il veut dire. Puis, quel est son sens propre dans le domaine religieux, pour ne pas de commettre d'erreur dans la compréhension et que dire dans la traduction. Et même après, lorsqu'on a eu besoin des ouvrages pour nous expliquer l'islam, les ulama ont employé des termes spécifiques aux matières dans lesquelles ils enseignent. Et ces termes sont de base arabes et dans le sens technique, dont le sens technique parfois peut être contraire au sens littéral et linguistique. À titre d'exemple, le terme as-sunnah. La majorité des gens, pour eux, le terme sunna veut dire recommander, conseiller. Donc c'est pour cela qu'ils voient des fois les gens, lorsqu'ils se parlent, ils ne se comprennent pas. Parce que toi, tu veux quelque chose, mais lui, il comprend autre chose. On a souvent ce problème-là. Quelqu'un qui parle avec un ancien, par exemple, et il lui dit, ça c'est sunna. Sache que celui qui est en face de toi, il comprend que ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Donc il ne comprend pas pourquoi tu l'obliges. Bah, pour lui, c'est quelque chose de recommandé seulement. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux l'obligatoire par là. Donc, toi, tu parles un langage, mais lui, il comprend autre chose. Pourquoi? Parce que la majorité des anciens, ils n'ont pas étudié les matières religieuses. Mais beaucoup d'entre eux qui vont à la mosquée, ils écoutent des cours. Et les cours qui leur sont réservés sont des cours généraux. Et en général, on explique aux gens comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle le domaine du fiqh. Et dans le domaine du fiqh, le terme sunnah est employé à la place du mustahab, c'est-à-dire recommander, conseiller. Donc, ils ont toujours appris ce sens-là, qui est un sens propre au livre du fiqh. Alors que sunna, à la base, en langue arabe, c'est le chemin. Que ce soit un chemin bon ou un chemin mauvais, c'est une sunna. Une bonne sunna ou une mauvaise sunna. Puis, lorsque on emploie ce terme-là, on le réserve à la tradition du prophète Mohammed, c'est-à-dire le chemin du prophète. Et le chemin du prophète sallam, il n'est pas seulement conseillé de le suivre, c'est une obligation de le suivre. Sinon, on n'est plus dans l'islam. Parce que l'islam, c'est le chemin du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, à bien savoir, lorsqu'on parle dans un domaine, quel sens ont les termes. Et certains ulama, lorsqu'ils écrivent un ouvrage, que ce soit dans les fondements de la jurisprudence, dans la jurisprudence, dans les sciences du hadith, et ainsi de suite, dans leur introduction, ils expliquent le sens des termes techniques. Lorsque j'emploie tel terme, j'entends par là telle et telle et telle signification. Ça, c'est important de bien définir les termes pour pouvoir bien comprendre. De même que le terme fiqh. Aujourd'hui, lorsqu'on dit à quelqu'un al-fiqh, pour lui, c'est quoi? C'est des livres qui parlent de la prière, de la zakat, du jeûne, du hajj, des transactions, du relationnel entre les gens. Ça touche le domaine cultuel et le domaine relationnel. Ce qu'on appelle al-ibadat et al-mu'amalat. Mais si vous revenez à l'époque des compagnons et des premiers siècles de l'islam, et vous posiez la même question, vous n'aurez pas la même réponse. Parce que ce sens-là n'était pas connu. Donc, quelqu'un qui va traduire le terme fiqh lorsqu'il est employé dans le Coran ou lorsqu'il est employé dans les hadiths, qui n'avait pas le traduire par le sens technique qui est connu aujourd'hui. Non, le terme fiqh littéralement veut dire la compréhension. Faqiha yafqahu, c'est-à-dire comprendre. Quand Allah dit dans le Coran, liqawmi yafqahun, c'est pour un peuple qui comprend. Man yuridillahu bihi khayran, yufaqihu fid-din. Celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension. Il lui donne la compréhension de la religion. Donc c'est pour cela qu'ici le shir, il nous explique le terme as-siyam littéralement. Dans la langue arabe, que veut dire ce mot-là? Et c'est clair que les Arabes qui employaient ce terme n'entendaient pas par là le fait de jeûner le mois de Ramadan puisque ça n'existait pas. Taïb. Wa huwa fi shara. Et dans le religieux, dans la législation musulmane, al-imsaku ani at-ta'ami wash-sharabi والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس طاعة لله سبحانه وتعالى. C'est l'abstinence de s'abstenir de la nourriture, de la boisson. Il est voulu, parce que c'est sous-entendu bien sûr, on parle à des musulmans croyants, la nourriture et la boisson qui sont licite. Parce qu'il y a des gens, qu'Allah les guide, qui sont dans les interdits, qui mangent des choses interdites, qui boivent des boissons interdites en islam. Et lorsque le ramadan arrive, ils s'abstiennent de cela. Tu dois t'abstenir de cela en tout temps et en tout lieu. Ce sont des choses interdites. Ici, il est voulu de s'abstenir de choses qui sont licites à la base, mais elles te sont interdites pour une certaine période. Comme le fait de manger et de boire, c'est permis. Mais lorsque tu entres dans la prière et que tu dis Allahu Akbar, cela te devient interdit. Tu n'as pas le droit de manger et de boire, ni de parler pendant la prière. En dehors de la prière, cela est permis. C'est le takbir de sacralisation. Tu entres en prière, des choses qui t'étaient permises te deviennent interdites là-dedans. De même dans le jeûne. Donc, ce sont des choses qui sont licites, permises, mais interdites à toi pendant un moment précis. Donc, l'abstinence de la nourriture, de la boisson, de relations sexuelles avec les femmes qui nous sont permises. Et non pas à une personne qui a une copine et lui dit on se retrouve ce soir. Wal'iyadhu billah. Elle t'est interdite le jour et la nuit. À l'intérieur du mois de Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. Si tu veux cette femme, tu te dois d'aller la demander en mariage. Tu ne veux pas la demander en mariage, tu la laisses tranquille et tu t'en éloignes. C'est pour cela qu'on voit beaucoup de gens, ils ne résultent de leur jeûne pas grand-chose. Et on ne s'amuse pas avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même que le shirk ne cite pas la cigarette. Parce que la cigarette est interdite à l'intérieur du mois de Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. On n'en parle pas. On parle de choses qui étaient permises et qui deviennent interdites pendant ces moments-là. Mais en ce qui concerne ce qui est déjà à la base interdit, on n'en parle pas. Il ne va pas nous dire, et de boire de l'alcool. Boire de l'alcool, c'est interdit, même en dehors du mois de Ramadan. On n'en parle pas. Tu te dois de t'en abstenir en tout temps et en tout lieu. Donc, à bien retenir qu'on parle de choses qui étaient permises, qui deviennent interdites pendant ces moments-là. Et tout ce qui peut nuire au jeûne, on doit s'en abstenir depuis le lever de l'aube. Et certains en français, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais on espère que c'est seulement involontaire de leur part, traduisent depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Que dans les télévisions, les mécréants, lorsqu'ils nous parlent du jeûne pour dire que les musulmans vont entamer le jeûne du mois de Ramadan. Disent cela, on peut leur trouver des excuses. Qu'est-ce qu'ils connaissent de l'islam? Ils ont peut-être été induits en erreur par certains qui prétendent connaître l'islam. Mais que des musulmans traduisent comme ça, c'est quand même grave. Parce que la pauvre personne qui commence à jeûner à partir du lever du soleil, il n'a pas jeûné. Subhanallah. Et il est en retard. C'est depuis le lever de l'aube, al-fajr. C'est l'aube, depuis le début de l'aube, jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'au coucher du soleil. Même si ces premières taches blanches, qui sont les premières lueurs de l'aube, elles viennent du soleil, mais ce n'est pas encore le lever du soleil. Mais ce n'est pas encore le lever du soleil. Il fait cela par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui jeûne parce que chez lui tout le monde jeûne. Ouais, ça ne se fait pas dans la maison, tout le monde jeûne. Il faut que je jeûne avec eux. Oui, mais tu le fais pour qui le jeûne? On a vu hein, l'adoration pour qu'elle soit acceptée, la bonne œuvre. Il faut qu'elle soit faite sincèrement pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et en conformité avec la sunna. Prenez cette règle de base. C'est la shahada. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Toutes mes œuvres, je les vérifie avec la shahada. Est-ce que j'applique la shahada ou pas? Si je n'applique pas la shahada complètement, c'est que l'œuvre n'est pas bonne. Donc, l'œuvre, la personne, tu jeûnes? Jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même si dans ta maison, tout le monde mange, tu te dois de jeûner. Tu ne le fais pas pour ressembler ou pour imiter ou pour être avec le groupe. L'effet de groupe, ou parce que tes amis jeûnent, donc tu dis je jeûne, et tu oublies qu'en vérité tu dois jeûner pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais pourquoi tu jeûnes? Je jeûne par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Wassawm lahu fawaid azima fi dunya wal akhirah. Et le jeûne a des bienfaits et des vertus énormes. Dans ce bas monde et dans l'au-delà. فَمِنْهَا أَنَّهُ سَبَبٌ لِحُصُولِ التَّقْوَى. Parmi ses bienfaits et ses vertus, c'est que c'est un moyen pour atteindre la piété. La piété, afin que vous soyez pieux, afin que vous atteigniez la piété. Et la piété, Allah tabaraka wa ta'ala nous l'ordonne dans le Coran, ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans beaucoup de versets, parmi lesquels dans lesquels Allah subhanahu nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui avez cru, craignez Allah, ayez de la piété envers Allah comme il se le doit, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Wattaqullaha wa yu'allimukum Allah. Et ayez de la piété envers Allah, et c'est Allah qui vous enseigne. Puis aussi Allah nous dit: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Et nous avons enjoint à ceux qui vous ont précédés, ainsi parmi les gens du livre, ainsi qu'à vous-même, de faire preuve de piété envers Allah. Et Allah nous dit dans le Coran: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et celui qui fait preuve de piété envers Allah, Allah lui ouvre les portes et il lui donne sa subsistance de là où il ne l'attendait pas. Et dans beaucoup d'autres versets, parmi les hadiths, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu: ittaqillaha haythu ma kunt. Fais preuve de piété envers Allah là où que tu sois. Qu'est-ce que la piété? C'est un bouclier de protection entre toi et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une protection entre toi et la colère et du courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui te sauvera dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et qui consiste à mettre en application les obligations et de s'abstenir et de s'éloigner des interdits. Ça, c'est la première étape. Puis vient une étape au-dessus, qui est d'appliquer les actes recommandés, des actes conseillés surrogatoires, et de s'éloigner et de s'abstenir des actes déconseillés. Plus la personne agit ainsi, et plus elle fait preuve de piété envers Allah. Moins elle agit ainsi, et plus elle s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le hadith à thème divin, dans le hadith Qudsi: Man adali waliyan فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Celui qui prend un de mes alliés comme ennemi, je lui déclare la guerre. Allah dit cela dans un hadith à thème divin. Et les alliés d'Allah, ce sont les croyants. Al-Awliya, c'est le pluriel de Wali. Qui est le Wali d'Allah? C'est le croyant qui fait preuve de piété. Comme Allah nous le dit dans le Coran: Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Donc, certes, les alliés, les intimes, les proches d'Allah n'ont rien à craindre. Et aucun reproche ne peut leur être fait. Et il dit: ce sont ceux qui ont cru et qui ont fait preuve de piété. Et dans ce monde, on est soit un wali d'Allah ou un wali de shaitan. Donc de croire qu'il y a certaines personnes à qui on réserve ce terme al-wali, qu'on traduit souvent par les saints, et que qu'est-ce qu'ils sont les autres musulmans? Ils sont quoi? Et a eu raison Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah lorsqu'il a écrit son ouvrage qui s'appelle Al-Furqan bayna awliya'i ar-Rahman wa awliya'i ash-Shaytan, le discernement entre les alliés du Tout Miséricordieux et les alliés de Satan. Donc tout musulman croyant est un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout autre n'est qu'un allié de Satan le lapidé. Et bien sûr, Ces alliés d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ne sont pas tous au même degré. Les prophètes sont au haut degré. Les vertueux, les martyrs, hein, sont à un degré bien plus haut que les gens de la masse, et ainsi de suite. Il y a des degrés entre eux, mais ils sont tous awliya d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis, dans ce hadith, un thème divin, Allah dit, et mon serviteur ne s'est pas rapproché de moi par une œuvre plus aimée de moi que ce que je lui ai rendu obligatoire. Voilà. Pour te rapprocher d'Allah, la meilleure œuvre, c'est ce qu'Allah t'a rendu obligatoire. Ça, c'est la première étape. Puis, il dit, et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. C'est l'autre étape. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit, ordonné, comme cela fut ordonné et prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété, afin que vous soyez pieux. وهو وقاية للمسلم. Et c'est une protection pour le musulman contre les péchés. وَوِقَايَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ. Et c'est une protection contre le châtiment d'Allah. فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الصِّيَامُ جُنَّةٌ وَحِصْنٌ حَصِينٌ مِنَ النَّارِ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ في شعب الإيمان وأصله في الصحيحين. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, qui dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, le jeûne est une protection, est un bouclier, avec lequel, parce que le bouclier, c'est ce qui servait aux guerriers d'avant pour se protéger contre les flèches et contre les coups d'épée ou de lance. Donc c'est un bouclier, une protection, et il est une citadelle fortifiée. Il est une citadelle fortifiée. Hein? Hisn, ça vous rappelle l'ouvrage qui est connu chez tout le monde, Hisnul Muslim, la citadelle du musulman. Al-Hisn, c'est la forteresse. Et le pluriel, c'est Husun. Et à titre d'exemple, les juifs qui habitaient à Médine, qui étaient composés de trois tribus, Banu Qurayza, wa Banu Nadir, wa Banu Qaynuqa. Ces trois tribus, elles habitaient à Médine bien avant la venue du prophète, alayhi salatu wa salam. Et il est dit dans l'histoire, Allahu a'lam, que leur présence dans ce qui était appelé auparavant Yathrib n'est pas dû au hasard, mais c'est parce que l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son émigration vers ce lieu était écrit dans les textes sacrés. Et lorsqu'ils ont vu la description de cet endroit dans leurs écritures et qu'ils ont vu Yathrib, ils ont reconnu que c'était cet endroit dans lequel émigrera le dernier des prophètes. Et ils se sont installés. Et ils attendaient sa venue. Et ils le disaient aux Arabes, viendra l'envoyé qui nous sauvera de tout ce mal dans lequel on vit. Subhanallah. Mais lorsqu'ils ont vu que ce message fut donné à Mohammed, ils ont été pris de jalousie. Pourquoi ce n'était pas un d'entre eux qui fut envoyé? Et ils ont refusé d'y croire et de le suivre, alors que cela est écrit chez eux. Mais ils le cachent. Ils ne veulent pas montrer, dévoiler cette vérité. Mais Allah tabarak wa ta'ala nous le dit dans le Coran. وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمْ يَا بَنِي إِسْرَائِيلِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Et Isa, Jésus, fils de Marie, alayhi salam, a dit ô enfants d'Israël, je suis le messager d'Allah envoyé à vous, confirmant ce qui était révélé comme Torah et vous annonçant la venue prochaine d'un prophète qui s'appelle Ahmed, qui est le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah nous dit dans le Coran, Alladhina ataynahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ceux à qui on a donné le livre, ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs propres enfants. En voyant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils le reconnaissent. Et là, la description. Et vous connaissez l'histoire de l'islam de Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, qui était un Perse. C'est les Iraniens d'aujourd'hui, le peuple perse. Et donc, eux, ce sont des Zoroastriens, c'est-à-dire des adorateurs, les mages, les adorateurs du feu, qu'on appelle en arabe, ce sont Al-Majous. Et donc, ils adorent le feu. Puis, il est devenu chrétien. Il est devenu chrétien. Et il a été le disciple de beaucoup de, si on peut dire, de prêtres chrétiens, jusqu'au dernier qui lui a dit d'aller vers l'Arabie, car c'est l'endroit où sortira le dernier prophète. Et il lui a donné la description. C'est un homme qui accepte les cadeaux, mais qui n'accepte pas les aumônes. Et derrière son dos, sur son omoplate, il y a le sceau de la prophétie. Et Salman al-Farisi a testé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il a vu les signes de la prophétie, radiyallahu anhu. Et il est entré dans l'islam et il fut un des grands compagnons, radiyallahu ta'ala anhu. Tayyib. Donc, ces juifs, ils avaient ces trois tribus. Donc, au début de l'émigration, ils étaient à Médine, mais ils avaient des forteresses. Chaque tribu avait sa propre forteresse. La nuit, hein, ils fermaient les portes d'entrée. Personne ne pouvait. Et c'est pour cela qu'on voit dans la biographie du prophète, sallam, lorsqu'il a combattu ces juifs pour le mal qu'ils ont accompli, on dit qu'il les a assiégés. Par exemple, pendant 15 jours. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans leur forteresse, renfermés. Ils ne voulaient pas sortir. Donc, il les a assiégés. Et à un moment donné, ben, ils n'ont plus de vivres qui entrent dedans. Et ils étaient obligés de se rendre. Et Allah nous dit dans le Coran, en parlant d'eux, « وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ » Et ils ont pensé que leur forteresse allait les protéger ou les préserver d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Donc, le jeûne est un bouclier, une protection, et il est une citadelle fortifiée contre le feu. Rapporté par Ahmed Yalbayhaqi dans Shu'ab al-Iman, c'est-à-dire dans un ouvrage qui s'appelle « Les branches de la foi ». Et la base de ce hadith, on la retrouve dans les deux authentiques de Bukhari et Muslim. Bissawm tadiqu majari shaytan. Avec le jeûne, les entrées de Satan se rétrécissent. Et il a moins de facilité à pénétrer et à entrer dans la personne et à l'atteindre. Wa takhiffu dawa'i ash-shahwa allati turdi sahibaha. Et la demande, ce qui appelle au désir et au plaisir, diminue. Hein, puisque le jeûne fait que tu as faim, tu as soif et tu es moins attiré par les plaisirs et les désirs. Ce qui amène à la perte de la personne. Fa'an ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya ma'shar ash-shabab من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، متفق عليه. Et d'après Ibn Mas'ud, c'est-à-dire Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous les jeunes, celui qui a la possibilité, la capacité de se marier, alors qu'il se marie, celui qui a les moyens financiers de pouvoir se marier, qu'il le fasse, car cela l'aidera à baisser le regard et à préserver son sexe. Et celui qui ne le peut, alors il se doit de jeûner, car cela est pour lui une protection. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc un remède du prophète alayhi salatu wassalam pour ceux qui sont en difficulté de mariage. Tu es en difficulté du mariage ? Voilà le remède du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas le remède de n'importe qui, c'est le remède du prophète d'Allah alayhi salatu wassalam. Donc n'allez pas chercher autre chose. Ah mais moi personne ne veut me trouver une sœur. Hein? Et puis après, voilà. Ah, si je suis tombé dans telle chose, c'est parce que personne fait que... Subhanallah. Ça c'est une maladie d'aujourd'hui. Hein? Que les gens ne veulent pas assumer leur mal. Ils veulent mettre ça sur le dos des autres. Quand il y a un mal, c'est la communauté, ce sont les frères, ce sont les sœurs, ce sont. Ça, déjà, à la base, c'est une maladie. De chercher un bouc émissaire pour se légitimer, pour dire, c'est pas de ma faute. Voilà. Un va apostasier, c'est pas de ma faute, on s'est mal comporté avec moi. Subhanallah, si tu es musulman, c'est pour Allah, tabaraka wa ta'ala, même si tu es tout seul dans un désert. Subhanallah. Mais c'est vrai que si les gens sont bien avec toi, ça va t'aider. Mais n'attends rien des gens. Et remets-toi-en à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ne cherche refuge et aide et secours qu'auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. Allah te suffit. Wallahi, si Allah est avec toi, tu n'as besoin de personne dans ce bas monde. La présence des gens n'est qu'un plus. Mais Allah, il te suffit. Subhanahu wa ta'ala. Alaysa Allahu bikafin abda. Allah ne suffit-il pas à son serviteur? Donc, il faut arrêter de, dans tel ou tel problème, toujours mettre ça sur le dos des autres, bien que les gens peuvent avoir une cause là-dedans, mais remets-toi-en à ta propre personne. Donc, voilà le remède du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il y a des gens, ils trouvent des remèdes qui ne sont pas les remèdes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a qui vont, par exemple, permettre la masturbation, al-iyadu billah. Pourquoi ? Oui, mais il y a des gens qui ne peuvent pas se marier. C'est mieux qu'ils fassent cela, qu'ils tombent dans l'adultère. Pourquoi faire des comparaisons comme ça ? Si on va faire des comparaisons comme ça, on va permettre tous les interdits. C'est quoi le pire ? De boire un verre de vin ou une bouteille de vin ? De tuer une personne ou de tuer 100 personnes ? Subhanallah. De voler un œuf ou de voler un bœuf ? Ajib ! Ce sont des actes interdits. On n'a pas à dire, non, c'est pas grave parce que c'est... Subhanallah. Le prophète n'a pas donné ce genre de remède. Il a dit, tu as des difficultés, tu as du mal à te marier, tu n'as pas les moyens de te marier. Voilà ton remède, jeûne. Le jeûne va t'empêcher de penser ce qui t'appelle au mariage. Voilà. Le temps qu'Allah t'ouvre les portes, et si tu fais preuve de piété envers Allah subhanahu wa ta'ala, comme il se le doit, tu verras les portes d'Allah subhanahu wa ta'ala s'ouvrir à toi. As-sawmu sababun li-ijabati du'a. Le jeûne est une cause pour l'acceptation ou l'exauce des invocations. Fa'an Abi Hurayra radiyallahu anhu qala. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر الحديث أخرجه الترمذي. D'après Abu Huraira رضي الله عنه, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, trois personnes, leur invocation n'est pas refusée, elle n'est pas rejetée. Et il a cité, alayhi salatu wassalam, et le jeûneur jusqu'à qu'il rompe son jeûne. Le hadith rapporté par At-Tirmidhi. وقد خص الصيام من بين سائر الأعمال بمزيد فضل ومزية. Et le jeûne a été spécifié par des œuvres, en dehors des autres œuvres, par des vertus et une grande place. Min thalika, parmi lesquelles, donc parmi les spécificités du psaume, du jeûne, par rapport à d'autres œuvres. Min thalika, anna khalufu fammi s-sa'im atyabu 'inda Allah min rih al-misk. Parmi ces choses, il y a que khalufu fammi s-sa'im, c'est-à-dire l'haleine qui sort de la bouche du jeûneur. Donc c'est une haleine qui est due au jeûne. Le fait de jeûner, de ne pas manger, de ne pas boire, cela amène une certaine odeur dans la bouche. Et bien cette odeur, cette haleine de ce jeûneur, elle sent plus bon auprès d'Allah que l'odeur du musc.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه Muttafaqun alayh, d'après Abu Huraira, radiyallahu anh, qui dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, et par celui qui détient l'âme de Muhammad dans sa main, l'haleine de la bouche du jeûneur sent plus bon auprès d'Allah que l'odeur du musc. Pour le jeûneur, deux moments de joie. Un moment de joie lorsqu'il rompt son jeûne, et un moment de joie lorsqu'il rencontre son Seigneur, il sera joyeux du jeûne qu'il a accompli pour Allah, subhanahu wa ta'ala, rapporté par Al-Bukhari et Muslim.
Wa min thalika aydan, anna jami' al-a'mal, jaza'uhuma al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'i mi'ati da'f, ila adha'afin kathira. Parmi aussi ces spécificités, c'est que toutes les œuvres, leur rétribution ou leur récompense, c'est chaque récompense est multipliée par 10 jusqu'à 700 fois, jusqu'à bien plus.
Illa saum fa inna Allah subhanahu adafahu ila nafsi,
sauf le jeûne, car Allah se l'est approprié à lui-même.
وَتَوَلَّى سُبْحَانَهُ جَزَاءَهُ بِغَيْرِ حَصْرٍ.
Et Allah s'est pris garant de le récompenser sans compter, sans limite.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة قال الله illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toutes les œuvres du fils d'Adam sont à lui. La bonne action est multipliée par 10 jusqu'à 700 fois, jusqu'à bien plus. Et Allah a dit, c'est un hadith à thème divin, Qudsi, sauf le jeûne, car il est à moi et c'est moi qui en donnera la récompense. Toutes les œuvres appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes les œuvres, c'est Allah qui en donne la récompense. Mais là, c'est une précision pour le jeûne. Et une autre précision, que la récompense, on ne la connaît pas. Elle est sans limite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que ce qui différencie le jeûne des autres œuvres, c'est que le jeûne, il n'y a que Allah tabaraka wa ta'ala qui sait si vraiment tu as jeûné ou pas. Le fait de t'abstenir de manger et de boire, personne ne peut témoigner pour toi. On peut dire que tu as fait la prière, on peut dire que tu as fait tel acte. Mais le jeûne, on ne sait pas. Tu nous dis que tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu. On te croit.
Mais réellement, t'as pas eu un petit moment où tu t'es caché, t'as été manger, t'as été boire? Ça, on ne peut pas le savoir. Subhanallah. Et donc, c'est une heure dans laquelle on ne peut pas faire de l'ostentation. On ne peut pas, pendant cette œuvre-là, en jeûnant, on ne peut pas faire de l'ostentation. Parce que ça n'apparaît pas. Est-ce que tu jeûnes ou tu ne jeûnes pas? Subhanallah. Alors que les autres œuvres, elles se font et les gens voient tes actes. Et il se peut qu'il y ait de l'ostentation là-dessus. Donc ça, c'est une des spécificités pour le jeûne. As-sa'imun lahum babun yakhussuhum min abwabil jannah la yadkhulu ma'ahu ahadun ghayruhum. Les jeûneurs ont une porte propre à eux parmi les portes du paradis. Personne en dehors d'eux ne peut entrer par cette porte. Yuqalu lahu babur rayyan. Et cette porte, elle s'appelle la porte de Ar-Rayyan. Fafi sahihayn an Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan yadkhulu minhu as-sa'imun يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. Dans les deux authentiques, dans l'authentique de Bukhari et l'authentique de Muslim, d'après Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, au paradis se trouve une porte qui se nomme Ar-Rayyan, par laquelle entrent les jeûneurs le jour du jugement dernier. Personne en dehors d'eux ne peut entrer par cette porte. Il sera dit, où sont les jeûneurs? Et les jeûneurs viendront pour entrer par cette porte. Et lorsque le dernier d'entre eux sera entré, cette porte se refermera et personne d'autre ne pourra entrer. هذه بعض فضائل الصوم المنصوص عليها في الشرع. Voilà certaines vertus parmi les vertus du jeûne qui nous sont citées dans la religion, dans les textes. وهناك فوائد أخرى يذكرها أهل الطب وغيرهم. Et il y a d'autres bienfaits dans le jeûne qui nous sont cités par les médecins, les savants de la médecine et autres que eux. مثل كون الصوم علاج للبدن وتنقية له من الأخلاط الرديئة التي تضره. وقد كان كبار أهل الطب يصفونه علاجا لمرضاهم. Comme le fait que le jeûne est un remède pour le corps, est un moyen de purifier et de nettoyer le corps de tout ce qui s'y trouve à l'intérieur comme choses mauvaises, qui peuvent être nuisibles. Et il est connu que parmi les grands médecins, ils prescrivaient le jeûne pour leurs malades. Pour se soigner, ils leur prescrivaient le jeûne. ثم إن الصائم يجب عليه أن ثم إن الصائم يجب عليه أن يخلص لله عز وجل في صيامه وأن يحافظ عليه. Puis le jeûneur, il est un devoir pour lui d'être sincère dans son jeûne envers Allah Azza wa Jal et de le préserver. وَيَحْتَسِبْ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنَّهُ سَبَبٌ لِمَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ. Et qu'il patiente et qu'il attende la récompense de ce jeûne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car cela est une cause pour que les péchés soient pardonnés. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, qui dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et conviction, c'est-à-dire, il jeûne le mois de Ramadan parce qu'il a la foi et la conviction qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a ordonné de jeûner. Et il fait cela par obéissance et adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait pourquoi il jeûne. Il obéit à l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wahtisaban, et il attend sa récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ses péchés précédents lui sont pardonnés. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. هذا وإن هناك أمورا تنافي حقيقة الصوم وتبطله يجب على الصائم البعد عنها. Ceci, et il y a des choses qui vont à l'encontre de la réalité du jeûne et qui viennent à l'annuler. Il est un devoir pour le jeûneur de s'en éloigner. وهناك أمور تنافي كمال الصوم وتجرحه. Et il y a des choses qui vont à l'encontre de la perfection du jeûne et qui viennent à le blesser, à nuire, à avoir une nuisance, c'est-à-dire ça ne n'annule pas le jeûne, mais ça nuit au jeûne. وتنقص ثوابه, et qui baisse dans sa récompense. يجب تركها كل وقت. Il est un devoir, une obligation de s'en éloigner, de le délaisser en tout temps. Et cela est plus encore demandé pendant le mois de Ramadan, les hurmatis zaman, pour le côté sacré de ce moment. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Wa iyyakum. Donc inshallah, après le dhuhr, on terminera le cours.